foi en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités, car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi.
Donc, ces entretiens sur l'Épître aux Hébreux, au point où, l'année dernière, nous les avons laissés. C'est-à-dire, au début, des exhortations qui suivent tout naturellement la partie doctrinale de l'Épître. Cette Épître aux Hébreux nous a présenté essentiellement l'homme Jésus, le Christ Jésus, qui est le Fils de Dieu, venu ici-bas et qui, ayant accompli son service, son ministère d'apôtre d'une nouvelle confession, ayant accompli par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Nous avons vu qu'il est là comme le souverain sacrificateur de la confession nouvelle, et que la somme de la partie doctrinale c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle, le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Il y a un objet à contempler dans le ciel pour ceux qui sont encore sur la terre en attendant le voir et de le connaître davantage et parfaitement dans le ciel. Ce souverain sacrificateur, ainsi assis dans les lieux célestes, a ouvert un chemin. L'accès vers Dieu était fermé jusque-là, et cet accès a été ouvert par lui-même, par son sang, ce sang qu'il a apporté jusque dans le lieu très saint, jusque dans la présence de Dieu. Et ensuite, il s'agit que ce chemin pût être pris par d'autres. Et c'est le résultat infiniment précieux pour nous à la gloire de Dieu et de son œuvre que le chemin ouvert vers Dieu le soit pour nous, c'est-à-dire des hommes qui étaient des pécheurs et qui maintenant sont admis à se présenter devant Dieu lui-même. Les chapitres 9 et la première partie du chapitre 10 nous ont montré comment ce chemin a été ouvert. Et la valeur du sang qui est là devant les yeux de Dieu de telle manière que ceux qui s'approchent de Dieu peuvent le faire, et non plus dans la crainte, non plus avec terreur, non plus pour trouver finalement un voile impénétrable, mais dans la liberté de ceux qui n'ont plus à craindre le jugement de Dieu à l'égard de leurs péchés. Il ne peut plus avoir de frayeur de Dieu à l'égard des péchés commis. Et c'est ce qui est le propre d'une conscience purifiée, le propre de ceux dont il est dit qu'ils peuvent venir n'ayant plus aucune conscience de péché. Donc, un chemin ouvert vers Dieu, un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, et des hommes rendus capables de s'approcher par ce chemin et d'être les objets de l'activité et de ce souverain sacrificateur qui n'a plus rien à faire avec l'expiation des péchés, elle est faite pour jamais, mais qui s'occupe de ceux qui sont encore sur la terre, de ceux qui lui appartiennent, et de ceux qui sont invités à s'approcher et à entrer dans le lieu saint, mais qui en même temps sont encore des pèlerins, des voyageurs, des étrangers sur cette terre. Et c'est sur ces grandes bases que les exhortations que nous avons commencé de voir se présentent. La première étant de profiter de la liberté qui nous est donnée, donc de nous approcher avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Mais ensuite, et il s'agit là de quelque chose qui a été déjà présenté à ces chrétiens hébreux, qui nous a été présenté par conséquent à plusieurs reprises dans l'Épître, s'entremêlant, on peut dire, avec l'enseignement doctrinal et les grandes vérités qui sont révélées, à savoir que il s'agit de retenir la confession de l'espérance sans chanceler. Ce qui a été placé devant nous et que nous avons à retenir. Et puis, les résultats se montrant non seulement dans la vie individuelle, mais dans la vie collective, bien que l'assemblée ne soit pas formellement mentionnée, et il s'agit de l'amour à montrer les uns à l'égard des autres, nous excitant à l'amour et aux bonnes œuvres, prenant garde l'un à l'autre pour cela, et puis n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes. Le rassemblement en tant qu'appartenant à Christ. Et cela étant un témoignage au milieu de ce monde, et devant entraîner la haine de ce monde, parce que c'est un corps nouveau qui s'insère au milieu de ce monde comme étranger. Là, l'importance de ce rassemblement de nous-mêmes. Et tout cela ne peut être réalisé que par la foi. Comment savoir que cette personne glorieuse est dans le ciel, qu'elle a accompli une telle œuvre, que le chemin est ouvert, que l'accès jusqu'à Dieu est libre, sinon par la foi, en recevant le témoignage des Écritures et en laissant le Saint-Esprit nous éclairer, nous illuminer à cet égard. Par la foi, recevoir ces choses et par la foi les garder. Alors, dans les versets qui suivent, la fin du premier paragraphe et puis le dernier paragraphe de ce chapitre 10, on peut dire que on a le contraste absolu entre, d'un côté, la foi s'emparant de ces grandes choses et les gardant précieusement et finalement en vivant, c'est le dernier et la dernière chose que nous trouvons, n'est-ce pas, vivre de foi, juste vivra de foi, et cela jusqu'au bout, tant que l'on est sur la terre, avec devant soi l'espérance de la venue de celui qui est prédit, celui qui vient et viendra. Alors c'est une attente que la foi réalise. Alors contraste entre cela, et puis ceux qui, ayant un moment professé, trouvé agréable, même précieuse, ces grandes choses, en réalité, n'en ont jamais été vraiment pénétrées. Il y a le danger pour tous qu'elles perdent leur intérêt, leur prix. Mais il y a aussi la profession sans vie qui d'avance se trouve condamnée. alors des exhortations nous sont données. Il y a en contraste avec la foi, qui n'est pas la foi d'un moment, mais qui continue jusqu'au bout, et ceux qui se retirent, sont présentés déjà depuis le verset 26 au verset 31, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'est pas dit l'amour de la vérité, mais la connaissance de la vérité, s'en détournent, disant « Oh, j'avais cru que c'était bien là la vérité, mais c'est une erreur, mais il faut que je revienne aux choses anciennes. » Pour les Hébreux, c'était revenir au culte judaïque. Et puis, nous les retrouvons à la fin du chapitre, ceux qui se retirent pour la perdition. Alors d'un côté, le chemin de la foi aboutissant, l'âme étant conservée par la foi à travers toutes les circonstances, même les plus contraires, conservée jusqu'au moment béni de la venue du Seigneur, et contraste avec ceux dont la fin est la perdition. Et alors, dans le paragraphe, le dernier paragraphe que nous avons lu, il est beau de voir ces choses et de voir dans la vie de ces croyants qui avaient besoin d'être ranimés, d'être encouragés et consolés et d'être enseignés, et ils le sont, de voir comment les grandes vérités qui ont été présentés précédemment sont appelés à prendre place dans leur vie quotidienne, qui est une vie de combat, une vie de lutte. Le passé leur est rappelé, les jours précédents, les premiers jours où ils avaient été inondés, éclairés de la lumière céleste, la lumière spirituelle. Le terme pourrait être traduit par illuminé, rempli de cette lumière d'en haut, de sorte qu'ils avaient été tout heureux et pleins de zèle, et ils avaient rencontré alors les souffrances, la persécution, l'affliction, les opprobres, et ils avaient montré de la sympathie pour ceux qui étaient encore plus éprouvés qu'eux. Alors, ce passé leur est rappelé. Et il leur a dit, ne vous lassez pas, ils étaient en danger, ne vous lassez pas, et ne revenez pas en arrière, au contraire, il faut aller en avant. Il vous faut pour cela la confiance que vous avez montrée, montrez-la toujours davantage, et pour cela que vos regards soient portés vers l'avenir. Et qu'est-ce que c'est que l'avenir et les choses qui sont placées devant eux, choses promises dont il est parlé, qu'ils ont à recevoir? Mais c'est la venue de la personne glorieuse qui est dans le ciel, celui dont il est dit, celui qui vient. Il viendra à un moment voulu, mais actuellement il est en train de venir. Et alors, entre le moment où ils avaient été illuminés, éclairés, où la foi avait été pour la première fois éveillée chez eux pour leur faire voir clairement les choses et d'une manière nouvelle, et puis l'aboutissement, c'est-à-dire l'avenue du Seigneur, il y a ce présent fait d'épreuves, de combats, de souffrance, et qui n'est autre que la réalisation ici-bas du caractère d'étranger qui est le nôtre, parce que nous ne sommes pas étrangers au ciel. Et alors, c'est la vie de la foi, la vie pratique ici-bas, nourrie, soutenue, éclairée continuellement par la foi Et qui, pour le chrétien, car il s'agit ici de la foi chrétienne, est à toujours le même objet, la même personne, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce que le chapitre 11, alors, va illustrer par l'évocation des hommes de foi de l'Ancien Testament et qui ont vécu, eux aussi, par la foi et de foi, à travers des circonstances très différentes, sans avoir reçu les choses promises, et puis les témoins, la nuée de témoins, ne fait que annoncer le témoin par excellence, l'homme de foi, le chef et le consommateur de la foi, et qui, lui, est allé parfaitement, sans défaillance, jusqu'au bout, et qui reçoit déjà dans la gloire où il se trouve et nous est présenté comme tel la récompense de sa fidélité d'ici-bas. De se produire seulement le passage que nous avons vu aujourd'hui. On saurait insister sur la nécessité de bien voir Christ dans la gloire et qui vient pour le salut définitif. Sur, d'autre part, s'il s'agit, voilà pour Christ, s'il s'agit de nous, plein accès pour entrer dans le ciel dès maintenant par la foi et sur la terre, la vie de la foi.
Ces passages, comme on l'a dit, ce livre entier ne présente pas l'Église, mais il présente la position de ceux qui la composent, et d'autres, de tous les croyants. Et il n'est pas mauvais que plus jeunes ou plus âgés croyants, nous arrêtions devant ces versets connus de tous dans nos mémoires et qui déclarent que nous avons un accès au ciel. C'est ce qui essentiellement distingue un chrétien. Il a des relations avec un monde avec lequel aucun inconverti n'a de relation. Et pour le chrétien, ses meilleures relations sont dans le ciel. Et ce n'est pas qu'une vérité sans effet, cela. C'est une vérité qui, dans la mesure où elle est, comme on l'a dit, reçue par la foi, peut transformer peu à peu nos vies, notre marche. C'en est le secret. Nous n'avons pas peur de Dieu, parce que nous avons reçu le pardon, mais nous le craignons tout de même. Craignons de lui déplaire. Mais c'est un point très important, et cela, on ne saurait trop le répéter, n'est reçu que par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi, si on nous demandait la définition? C'est fort difficile à définir. On peut toujours dire quelque chose sur ce qui l'a produit. C'est le fruit d'une opération divine dans l'âme, d'abord pour recevoir la vérité vivante, et ensuite le fruit d'une opération divine dans l'âme pour que la vérité connue agissent en nous, tous les jours. C'est une puissance divine, et la foi n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par un effort de nous-mêmes, produire en nous par un effort venant de nous-mêmes, pas du tout. c'est une opération divine. Sorte que si nous voulons demander la bénédiction d'une âme, nous demandons que le Saint-Esprit agisse en elle pour la faire entrer dans ce monde qui est celui de la foi. Il est important que nous pensions à cela parce que nous risquons sans cela de voir l'essentiel de notre vie chrétienne dans les faits extérieurs. Ce n'est pas vrai. Les faits extérieurs sont une conséquence. La source, c'est justement les relations que nous avons avec un Dieu connu, connu dans tout ce qu'il est, aussi bien dans ses exigences que dans sa grâce. Mais c'est cette relation vivante avec Dieu, avec le Seigneur, qui peut seule nous permettre de réaliser le christianisme dans notre vie courante, dans la vie de tous les jours, dans les faits ordinaires de la vie, dans les faits extraordinaires, comme nous avons vu qu'ils n'avaient pas reculé devant l'abandon de leurs biens. Ce n'est pas si facile à faire que cela. Accepter que cela, ce renoncement. Seule la foi, c'est-à-dire l'action de Dieu dans un chrétien, peut lui permettre d'être chrétien, pratiquement. Un chrétien à la gloire de Dieu. Il est bien aussi important de voir que la possession du privilège, à savoir nous qui sommes au Seigneur ici, nous n'avons pas de crainte quant à notre sort éternel, mais il est bien important de voir de quelle manière, si d'une part l'Écriture définit avec précision la position de ceux que Dieu bénit, avec une aussi grande précision, elle met en garde ces mêmes chrétiens-là qui sont de Dieu et qui ont leur relation avec le ciel, les met en garde contre les dangers qu'ils courent ici-bas. Et d'autre part, comme cela nous a été dit aussi, met devant eux le devoir pour eux qui découle de privilèges si extraordinaires. Jamais les penseurs d'aucune génération n'auraient pu imaginer des choses semblables. Alors que lequel des croyants qui reçoit la vie par la foi et chez lequel le Saint-Esprit entretient cette foi, cet homme-là, qui est peut-être sans beaucoup de développement, cet homme-là se trouve à l'aise dans les choses qui ne se voient pas, dans ses relations avec Dieu. Il ne saurait pas l'expliquer, mais nous n'attendons pas de vivre, d'avoir compris ce que c'est que la vie, même la vie courante. De la même manière, nous connaissons ces choses en jouissant. C'est en jouissant de ce que nous vaut le sang de Christ et l'action du Saint-Esprit que le ciel se révèle à nos âmes, et ce n'est pas un effet d'imagination. Quand nous jouissons du ciel, nous le savons bien. Communion avec le Seigneur, nous le savons très bien. Et le Saint-Esprit nous remplit de pensées et de sentiments que nous n'avons pas toujours au même degré, ce qui prouve justement que tout vient de lui.
C'est les tribulations que ces chrétiens hébreux avaient connu. Nous ne sommes pas autrement renseignés sur ce qu'elles avaient été, dans quelles conditions, à quel moment, mais nous en avons ici le témoignage. N'était pas pour eux, pas plus que pour quiconque, le moyen d'acquérir ces bénédictions, ces biens meilleurs et permanents dont il est question ici et que notre frère vient de rappeler. mais étaient la conséquence du fait qu'il les possédait, et qu'il est possédé par la foi. Et c'est précisément l'appréciation de tous ces biens qui se concentrent dans la personne du Seigneur Jésus, dans sa connaissance, et que c'est dans cette possession-là, réalisée par la foi, et que se trouve le secret, non seulement pour supporter, non seulement pour avoir cette patience qui est demandée ici, mais pour réaliser à travers ces choses mêmes qu'il y a là une bénédiction suprême et que c'est la gloire pour le croyant, parce que ce sont les souffrances pour Christ, des souffrances que nous connaissons bien peu dans nos temps, dans nos pays pour la plupart, parce que nous avons, Dieu permet ainsi, une vie bien facile et nous nous contentons de peu de choses comme affliction et comme opprobre pour Christ. Mais la réalité est pourtant cela, c'est que la gloire du croyant, c'est de souffrir pour Christ ici-bas. Aux Philippiens, l'apôtre peut écrire qu'ils avaient reçu non seulement il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est ce que les chrétiens dont il est question ici avaient connu dans ces jours que l'apôtre leur demande de rappeler à leur mémoire.
Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de chrétiens qui, au sein même de l'Église, au sein de laquelle ils se mouvaient, il y a eu beaucoup qui ont eu à souffrir de ceux qui portaient le nom de chrétien et prétendaient détenir la vérité la plus grande. Et au cours des siècles, de nombreux chrétiens ont pu être restaurés, consolés, encouragés par ces versets. Nous qui, dont l'existence est souvent justement trop facile, nous lisons cela, mais sans nous arrêter devant cela. Mais lorsqu'il nous arrive d'avoir, si nous pouvons parler ainsi, un moment difficile dans notre vie, et que nous soyons conduits à lire cela, nous découvrons dans ces versets une richesse infinie que nous n'avions pas découverte jusque-là. Le Seigneur ne dit rien sans que tout ce qu'il lit ne soit plein d'une vérité divine. Encore faut-il la foi pour l'y puiser. Et le Seigneur permet justement les difficultés aussi pour que on soit secoué de cette torpeur et de la recherche d'une vie sans ennui. Nous n'avons pas à rechercher les ennuis, mais le Seigneur s'en sert. C'est extrêmement intéressant. On voit aussi souvent cela dans l'Ancien Testament, mais nous pouvons encore aller plus loin. Depuis le réveil du siècle dernier, et au moment du réveil du siècle dernier, il y a eu des serviteurs, des croyants fidèles, justement, qui ont été fort maltraités, parce qu'ils cessaient de suivre le courant général. On les a fort maltraités, mais le Seigneur leur a donné de ne pas se laisser arrêter par cela. Et il n'est pas non plus, on pourrait en faire une autre application, beaucoup plus locale, et il n'est pas interdit de penser, on a même pu le constater, que dans une assemblée qui est en désordre, eh bien, il peut y avoir un frère ou une sœur qui, au milieu de ce désordre, ne suivant pas le courant général, peut avoir grandement à souffrir. Cela est arrivé, et plus souvent qu'on ne le pense. Et alors, tous ces passages qui ont l'air de vérité générale, dont on reconnaît a priori la valeur, n'est-ce pas ? Mais tous ces passages revêtent tout à coup une grandeur et prennent une puissance qui enrichit la foi. Le croire a priori, c'est pourtant vrai. Le Seigneur avec des souffrances, c'est mieux que toutes les facilités du monde sans lui.
Au verset 33e, il est parlé d'opprobre. L'apôtre dit que les frères auxquels il s'adresse avaient été offerts en spectacle par des opprobres et des afflictions, et aussi parce qu'ils s'étaient associés à ceux qui avaient été maltraités. L'opprobre dans la parole de Dieu nous est présenté sous deux jours différents. Il y a un opprobre qui résulte de la fidélité au Seigneur, et ses frères dans les jours précédents l'avaient clairement montré, cette fidélité. Il en était résulté pour eux de l'opprobre. Quand le Rabsaké est arrivé vers le roi Ézéchias et qu'il a insulté le Dieu vivant, le Dieu des armées d'Israël, Ézéchias peut dire « c'est un jour de détresse et de châtiment et d'opprobre ». Il semble que là, nous avons un résultat de la fidélité d'Ézéchias. Ézéchias a été un roi pieux, un roi très fidèle. Et le résultat de sa foi, de sa confiance en Dieu, a été l'opprobre. Il est ridiculisé par le roi d'Assyrie et son représentant et ses délégués. Il en résulte de l'opprobre pour lui et pour son peuple. Dans cette vie d'opprobre qui est le résultat de la fidélité au Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même est l'exemple parfait comme en toute chose. Ainsi, par l'esprit prophétique, il dit « L'opprobre m'a brisé le cœur ». Il a été fidèle, le témoin fidèle, au-delà de toute expression, et il a connu ce que c'était que l'opprobre, au point de dire « l'opprobre m'a brisé le cœur » au psaume 69e. Nous avons là donc des passages, comme notre passage d'Hébreux 10, où l'opprobre est présenté comme étant un résultat de la fidélité au travers des circonstances les plus éprouvantes au Seigneur. Mais l'opprobre est aussi présenté dans la parole comme étant un résultat de l'infidélité. Et c'est par exemple ce que Néhémie dit au début de son livre, quand il reçoit des nouvelles de son beau-frère, de quelques hommes qui étaient montés de Juda, et qui le renseigne sur l'état misérable des quelques-uns qui étaient restés dans la terre de Juda. Il peut dire ceci en Néhémie 1, verset 3, les restants qui sont demeurés de reste de la captivité, là, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Il y avait eu tout un développement, il y avait eu ce châtiment de Dieu terrible dont Dieu avait parlé souvent, et on était resté sans prêter attention à de telles paroles jusqu'au jour où il n'y a plus eu de remède et Dieu a dû intervenir dans sa juste colère à l'égard de son peuple, en le transportant dans la terre de Babylonie. Quelques-uns étaient restés dans la terre de Juda. Il est dit d'eux qu'ils étaient dans une grande misère et qu'ils étaient dans l'opprobre. Il est peut-être bon de se souvenir que l'opprobre est ainsi présenté dans la parole sous deux points de vue différents. Dans notre chapitre de l'Épître aux Hébreux, il est clair que là, nous avons un témoignage très beau qui est rendu à la fidélité de ses frères dans les jours précédents et qui, à cause de cette fidélité, avait été offert en spectacle, avait connu l'opprobre. Lui-même est toujours l'état, la situation de quelqu'un qui est l'objet du mépris, soit moqueur, soit haineux ou même violent, quelqu'un dont on se détourne, que l'on considère comme indigne, que l'on ait des rapports avec lui. Alors les causes de l'opprobre peuvent être différentes, comme cela vient de nous être montré dans l'épître de Pierre. On verrait que les souffrances, le fait de souffrir, peut revêtir également, et revêt effectivement, ces deux caractères. Des souffrances pour Christ ou des souffrances à cause de l'infidélité, à cause de la méchanceté. Mais qu'il est grand l'opprobre de Christ, pour qu'un Moïse l'ait préféré à toutes les richesses de l'Égypte, préférant être dans l'opprobre avec le peuple de Dieu, et préférant l'opprobre de Christ, que Christ ait été un objet d'opprobre. C'est ce qui est résumé dans un mot, dans une expression, dans le 53 d'Ésaïe, quelqu'un dont on détourne sa face.
Il y a dans ce passage deux moments qui nous sont présentés. Les jours précédents et le temps auquel l'apôtre écrivait à ses croyants. Dans les jours précédents, ils avaient supporté l'opprobre, les tribulations, ils avaient accepté l'enlèvement de leurs biens, et ce qui leur avait permis de traverser ces choses avec joie, c'était sans doute une mesure de foi qui était très grande. Quand l'apôtre leur écrit, c'est un autre temps. Ce ne sont plus les opprobres, ce n'est plus l'enlèvement de leurs biens qui les éprouve. Il semble que c'est la patience qui est éprouvée pour recevoir les choses promises. Et il semble que là, c'est la foi qui fait défaut, non plus pour supporter les tribulations ou l'opprobre, mais pour la patience, recevoir les choses promises. Ce qui semble leur manquer à ce moment-là, c'est la confiance. Ne rejetez donc pas loin votre confiance. Je me demande si cette pensée se trouve dans ce passage.
N'a-t-on pas la réponse dans Romains 5? Où la patience est présentée comme un effet de la tribulation. La tribulation produit la patience. Et lorsque les choses extérieurement semblent mieux aller. On est à l'aise. On veut prendre de l'aise, on en prend davantage. Et si Dieu permet qu'il en soit ainsi, voilà que l'on détourne peu à peu les regards des biens réels, des biens permanents, des choses promises. L'attente se lasse, l'espérance s'affaiblit. Et alors la patience d'espérance manque parce que la foi faiblit. Et vous avez besoin de cela, besoin de patience. Dans des jours tels que ceux qu'ils avaient traversés, ils avaient eu besoin de toute l'énergie de la foi. Maintenant, il fallait que la patience ait son œuvre parfaite, non plus au sein des tribulations, mais au sein d'un relâchement ou d'un relâche des circonstances. Et nous savons bien que c'est là un fait d'expérience courante, à la mesure différente de nos circonstances, de tout ce qui arrive dans nos vies personnelles et vies d'assemblée. On trouvera dans le chapitre 11 des exemples de patience de la foi et d'énergie de la foi dans le combat et les épreuves.
Les défaillances peuvent être et sont très diverses. Ce qui y fait face vient toujours de la même source. Il n'y en a pas deux sources. C'est Christ lui-même par l'Esprit Saint agissant. Les infidélités ont des causes différentes et des effets très variés. Le remède à cela, le vrai remède à cela ne consiste pas à les examiner l'une après l'autre. Le remède, c'est de retourner à Christ qu'on a perdu à un moment donné.
Ne peut-on pas dire que nous avons tous besoin, quelles qu'aient été nos circonstances, d'être ramenés au jour où et nous avons connu la joie de Christ, la joie de connaître Christ, et particulièrement au début. Ici, l'apôtre rappelle les jours dans lesquels ayant été éclairés, c'est lorsqu'ils avaient compris par l'action du Saint-Esprit, mais par la parole, qu'ils avaient reçu, la foi agissant, ils avaient compris que les choses anciennes étaient à laisser de côté et qu'il y avait des choses bien meilleures, infiniment meilleures, et ils étaient passés du judaïsme au christianisme. Disons d'une manière plus générale, on passe des ténèbres à la lumière, on passe du domaine de Satan à Dieu. C'est, prenons l'expression aussi générale, si vague qu'elle puisse être, de la conversion. Bien tous, à des degrés divers, nous devons avoir dans notre mémoire des moments où les choses se sont éclairées, sont illuminées pour nous. Et cela est vrai aussi bien pour quelqu'un dont la conversion a été marquante, qui a été tirée véritablement du monde, de l'ignorance, que d'un enfant de chrétien, des enfants de chrétiens dont on pourrait dire, mais ils ont toujours cru, ils ont suivi la foi de leurs parents et ils ont été éclairés progressivement. C'est vrai, il y a des cas où la lumière vient ainsi de façon progressive, mais je pense qu'il n'y a pas d'existence chrétienne qui ne puisse dater, peut-être pas avec précision, mais voir dans son souvenir des jours, des moments où quelque chose qu'ils n'avaient jamais éprouvé jusqu'alors s'est emparé de leur âme et ils ont fait se réjouir dans le Seigneur connu comme leur sauveur personnel. Alors il est bon de remettre en mémoire ces moments-là et dire où en sommes-nous. Si nous n'avons pas fait de progrès depuis lors, il est bien à craindre qu'il y ait eu des régressions. Et chacun de nous a s'examiner à cet égard.
C'est bien triste quand un chrétien a le cœur plus sec à l'égard de Christ. 50 ans ou 40 ans ou 10 ans après sa conversion, où son cœur a brûlé pour Christ, c'est un très mauvais signe. Et il serait normal, au contraire, que, à mesure que notre chemin se fait, la ferveur dans nos âmes à l'égard de Christ croisse. Parce que nous apprenons à le connaître, pas seulement dans les difficultés, mais parce que le bonheur que Christ donne, on ne s'en lasse jamais. Il est toujours nouveau. Et parce qu'aussi, il est normal que nous apprenions à connaître le Seigneur comme celui qui peut nous donner des leçons, nous former. N'est-ce pas? Nous former, cela nous lie également à lui. Il nous apprend à nous connaître et à en tirer les conséquences. Cela nous attache à lui. Et enfin, nous pouvons apprendre à le connaître, et voilà ce qui normalement doit être, comme celui qui intervient pour consoler, encourager dans les épreuves. Tout cela, donc, à mesure que nous faisons notre carrière chrétienne, devrait se traduire par un enrichissement dans notre état intérieur plutôt que par un endurcissement, comme c'est à des degrés vrai pour tous, mais enfin comme cela devrait être le moins possible. Et une vie qui n'est pas entretenue par ses relations avec Christ, de toute façon c'est une triste vie, le bonheur le vrai n'y est pas. Et bien que nous tirions tous leçons de ces passages qui ne sont pas profonds quant à la doctrine, mais ils sont très profonds comme étant liés à la doctrine et à la foi. Et ils sont de la vie de tous les jours. Ils trouvent leur place dans la vie de tous les jours. Si nous ne sommes chrétiens qu'une fois par semaine, eh bien, nous devons être de bien pauvres chrétiens. Qu'un jour par semaine.
Hors des biens actuels, des biens matériels et des biens meilleurs et permanents. De quel côté penche la balance pour nous ? Pour ces chrétiens qui souffraient, la perte des biens matériels était à ce moment-là, ou avait été à ce moment-là, peu de choses, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs et permanents. Mais si ces biens meilleurs et permanents n'ont pas de saveur pour notre âme, n'ont pas de prix pour notre cœur, alors les choses de la terre prennent de l'importance, de l'intérêt. savons tous ces choses. S'agit de mettre notre vie en rapport avec ce que nous disons.
Père de toutes les bénédictions d'ici-bas et dans sa santé, dans sa vie, de toute manière, il est bien certain qu'il ne sacrifiera rien de ces choses à moins qu'il n'ait saisi véritablement les choses célestes. Et c'est ce qui a fait que ces croyants-là ont abandonné avec joie. C'est quelque chose de remarquable de penser que ils n'ont pas abandonné par force ces choses, mais ils l'ont fait avec joie, prouvant qu'ils avaient d'autres biens et de véritables biens, des richesses que la foi seule peut saisir. C'est dans cette mesure que nous serons appelés à abandonner quoi que ce soit pour le Seigneur, même des choses de la terre. Et nos devanciers, certains, ont abandonné beaucoup afin de pouvoir s'engager véritablement pour suivre et servir leur maître, parce qu'ils avaient saisi ces biens célestes et permanents, et ces choses faisaient l'objet de leur âme tous les jours. Ainsi qu'il nous soit donné à nous aussi d'abandonner, de perdre quelque chose des avantages d'ici-bas pour le Seigneur.
Et encore une fois, le secret, c'est donc d'être exercé pour avoir de bons rapports avec le Seigneur, de bonnes relations effectives avec le Seigneur. Quand les relations sont bonnes, on a le Seigneur avec soi. Et alors, dans la mesure où il en est ainsi, on est toujours le plus fort. Lâchez Paul et chez d'autres.
Livre du Deutéronome prévoyait déjà ce danger des biens matériels et il est dit à Moïse qu'il pourrait arriver ceci, que les biens matériels amèneraient les enfants de son peuple à oublier l'Éternel. Le livre du Deutéronome a été appelé le livre du souvenir. On sait combien de fois dans ce livre il y a l'appel, l'exhortation à se souvenir. Tu te souviendras, souviens-toi, vous vous souviendrez. Mais dans le chapitre 8e de ce livre, l'exhortation est plus pressante encore, est plus solennelle encore. Dans le chapitre 8 de ce livre du Deutéronome, il est dit ceci au verset 11e, « Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui, de peur que quand tu mangeras, que tu seras rassasié et que tu bâtiras de bonnes maisons et y habiteras et que ton gros et ton menu bétail se multipliera, et que l'argent et l'or te seront multipliés, et que tout ce qui est à toi se multipliera alors. Ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. » Et la première chose qui est mentionnée, faite par Dieu,
à l'endroit de son peuple dans sa grâce, celle-ci qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde que tu n'oublies l'Éternel. Prends garde que ton cœur ne s'élève une fois que tu seras dans l'abondance et que tu oublies alors l'Éternel qui t'a délivré, qui t'a sauvé. On nous a rappelé tout à l'heure cette joie que nous devrions réaliser en pensant au jour de notre conversion, au jour où nous avons appris que le Seigneur Jésus était notre sauveur personnel. Nous devrions en effet rappeler dans notre mémoire ces jours précédents où nous avons été éclairés quant à notre état devant Dieu, éclairés d'autre part quant à ce que Dieu était et est le Dieu qui ne veut point la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Prends garde que tu n'oublies l'Éternel.
On est conduit ainsi, un peu plus haut, si j'ose parler ainsi, c'est-à-dire au droit de l'Éternel sur son peuple, parce qu'il l'a sauvé, au droit du Seigneur sur ses rachetés, individuellement et ensemble sur son Église, parce qu'il nous a aimés et qu'il a aimé l'Assemblée. Ces droits, c'est-à-dire tout ce qu'il est appelé à trouver, tout ce qu'il désire trouver dans ses résultats de son œuvre, du travail de son âme, le fruit du travail de son âme, et pour Dieu lui-même, le bon plaisir de sa volonté obéie. Il est question ici de cela. Vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Alors, voilà votre récompense, voilà votre grande joie, déjà par la foi, et dans l'avenir, ce sera la réalité. Mais, ayant fait la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu dont il est question dans le 12 des Romains, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Elle est toujours telle, en elle-même et pour Dieu. Et il faudrait que nous la trouvions telle. Mais que la volonté de Dieu soit accomplie, et c'est ce qui est appelé le bon plaisir, ce qui est appelé le plaisir de Dieu trouvé dans ceux qui l'accomplissent. Nous avons l'expression ici, n'est-ce pas ? Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et alors, il prend plaisir en celui qui accomplit sa volonté, et qui l'accomplit avec patience, et qui estime les biens divins, célestes, spirituels, pour nous, supérieurs à tous les biens de la terre. Il ne prend pas plaisir en ceux qui se retirent, et sans aller aussi loin que ceux qui se retirent jusqu'à la perdition, c'est-à-dire ceux qui en réalité n'étaient que de simples professants, la perdition totale, la perdition éternelle, le jugement éternel, le principe demeure le même, que se retirer, revenir en arrière, c'est abandonner la bénédiction et se trouver sur le chemin de la malédiction. Heureux sommes-nous si la grâce s'occupe de nous pour nous arrêter. Mais si quelqu'un sortit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Contraste avec ce que nous trouverons au chapitre 11 concernant ceux
et qui montrait clairement qu'il recherchait une patrie, et dont il est dit « Dieu n'a pas honte de nous ». Une joie passée et dont il faut nous souvenir, cette illumination de l'âme. Et pour le dire en passant, il était bien bon de faire ressortir, comme cela vient d'être fait, que cet éclairement de l'âme comporte au premier chef la connaissance de nous-mêmes devant Dieu, dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire notre état de péché, d'assujettissement au péché, par conséquent à ses conséquences, à la mort et au jugement, notre état de perdition, de telle manière que quand nos yeux s'ouvrent sur le Sauveur et l'œuvre de salut qu'il a accompli, c'est cette joie qui remplit l'âme et dont il faut nous souvenir. S'il y a une joie en tournant nos regards ainsi vers le passé, il y a une joie qui est devant nous, la joie qui était devant Christ, et la joie d'en avoir fini avec les choses de la terre, sans doute, mais la récompense céleste et des biens célestes connus, jouit dans leur lieu même, mais par-dessus tout, préalablement, je veux dire, la joie de la venue du Seigneur pour notre plein salut. Devant nous, et il y a cela, celui qui vient, viendra. Pour notre délivrance, sans doute, mais pour nous prendre, s'il s'agit des siens, pour être avec lui. Alors, ayant devant nous ce qui, d'un moment à l'autre, peut se produire, cette joie inégalable de la présence du Seigneur, déjà, être dans le repos pour l'âme séparée du corps, c'est de beaucoup meilleur. C'est le bonheur de l'âme. Mais que sera-ce quand le corps sera fait semblable au corps de Christ, quand nous serons faits semblables à lui, que rien, absolument rien ne nous séparera de lui. Alors, si vraiment nous avons cette espérance, est-ce qu'elle ne nous porte pas en avant? Est-ce que nous ne désirerons pas la garder vivante? C'est l'exhortation, je le répète, qui court à travers toute l'Épître aux Hébreux.
Que il est bon de le redire. Que l'assurance de la position chrétienne ne se sépare pas du tout, chez un vrai chrétien bien entendu, ne se sépare pas du tout de l'attention à écouter ce que Dieu dit, pour les siens, pour ses enfants. Autrement dit, nous pratiquement, on pourrait dire que nous récolterons ce que nous aurons semé, même étant des chrétiens. Si nous avons toléré dans nos vies des principes qui nous ont fait passer en marge du chemin, il faudra que nous prenions conscience, le Seigneur le fera, des conséquences de notre égarement. Et présentement déjà, il y a un affaiblissement de l'état et un affaiblissement des joies et de la communion avec le Seigneur. Autrement dit, distinguons toujours la position et l'état pratique. La position est intouchable, mais l'état pratique d'un chrétien, et par conséquent, ses rapports avec le Seigneur et avec Dieu, varient pour tous, à des degrés divers. Nous ne pouvons pas nous endormir sur l'assurance de vérité, de bénédiction donnée par Dieu. Et nous avons la foi doit être en exercice, même pour profiter des bénédictions que Dieu nous donne, pour en profiter ici-bas. Nous avons été très heureux au début de notre carrière ou à un autre moment de notre vie. Ce bonheur-là ne nous est pas assuré pour toujours. Enfants de Dieu, nous sommes pour toujours et nous avons accès au ciel toujours. Mais la puissance de notre joie, notre bonheur avec le Seigneur varie. Nous le reconnaissons sans peine au long d'une seule journée. Et par conséquent, notre témoignage en souffre.
Texte premier, en Habacuc 2, dont nous avons la citation ici au verset 37, il n'est pas question d'une personne. Il est question simplement d'une vision qui doit s'accomplir. Et il est remarquable de voir ici que l'Esprit de Dieu personnifie, pour ainsi dire, la vision, ou disons, c'est l'objet de la vision que Habacuc a eue qui nous est présentée. Alors il n'est plus dit la vision encore très peu de temps, la vision se réalisera. Il n'y aura pas de retardement, mais il est parlé de la personne même, de Christ, auquel l'apôtre n'a cessé d'attacher les cœurs de ses frères, auxquels il s'adresse. On nous l'a dit tout au début de la réunion, c'est en fait le but de cette épître, c'est d'attacher les cœurs de ses frères, qui sont sortis du judaïsme, sorti du peuple d'Israël, d'attacher leur cœur à la personne d'un Christ que le peuple dans son ensemble avait méprisé, rejeté, mis à mort. Or, ce Christ était ressuscité, il était monté en haut, c'était un Christ céleste et c'est à lui que l'apôtre désire attacher les cœurs. Pour cela, il faut la foi, d'où l'importance de la foi dans cette épître. Alors, cette personne viendra un jour. Ce Christ céleste dont l'apôtre a parlé jusqu'à maintenant, eh bien, un jour, et encore très peu de temps, celui qui vient viendra et il ne tardera pas. Promesse suprême, promesse bien propre à encourager ses frères qui avaient connu des temps d'affliction et de tribulation sans pareil. L'apôtre peut leur dire encore très peu de temps, il ne tardera pas. Il y a là une petite leçon pratique pour nous en rapport avec l'expression que nous employons couramment en parlant du Seigneur qui pourrait tarder. Nous disons volontiers, si le Seigneur tarde, nous pouvons penser à ceci ou à cela, à une réunion prochaine, si le Seigneur tarde. Il est clair que pour celui ou celle qui emploie cette expression, bienfaisante, il n'y a pas l'ombre d'une pensée qui serait étrangère à l'enseignement divin. Mais si nous voulons y regarder de près, en fait, dans notre passage, il nous est dit qu'il ne tardera pas. L'apôtre Pierre nous parle de la même promesse en nous disant qu'il n'y a
pas de retardement en ce qui concerne l'accomplissement de cette promesse, et il dira, non pas le Seigneur tarde, mais le Seigneur est patient. Et il faut bien admettre que c'est quand même ces différentes personnes des paraboles qui parlent de retardement. C'est un méchant esclave qui dit « Mon maître tarde ». Et quand dans la parabole des vierges il est dit « Comme l'époux tardait », ce sont quand même des vierges dont les affections se sont insensiblement distancées de la personne de Christ. Il est dit « Comme l'époux tardait », qu'est-ce qui est arrivé? Elles s'assoupirent, elles s'endormirent. Nous pensons donc que l'expression la plus, disons, la plus scripturaire, la plus heureuse serait celle-ci. Si le Seigneur patiente, non pas tant si le Seigneur tarde. Mais pour revenir au texte d'Habacuc 4, il nous est parlé alors de cette vision. Et il y a un détail qui est ajouté, qui est bien propre à exciter notre zèle pour le Seigneur et pour la présentation de sa parole. Oui, en Habacuc 2, il nous est dit ceci au verset 2, « L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. » Écris la vision, ne la garde pas pour toi-même, écris-la, et puis grave-la sur des tablettes, il faut qu'elle demeure, il faut qu'elle soit lisible, clairement lisible, il faut qu'on puisse en prendre connaissance, afin que celui qui la lit puisse courir. Voilà ces tablettes, gravé, la vision est écrite sur ces tablettes, quelqu'un passe, il voit ces tablettes, il peut lire, et puis il s'approprie ce qu'il a lu, et il est à même ensuite de le communiquer à d'autres. Et il montrera pour cela un zèle particulier, afin que celui qui lit puisse courir. Courir, pas seulement courir la course qui est devant nous, mais courir pour servir le Seigneur et pour faire connaître à d'autres cette vision, c'est-à-dire pour nous-mêmes, sa parole et d'une façon très particulière, la vérité concernant le retour du Seigneur.
En tous ces versets du dernier paragraphe, on voit que la foi et l'espérance sont étroitement liées. Jusqu'à ne faire qu'une. La foi et l'espérance. Et on retrouve cette liaison alors dans le premier verset du chapitre 11, puisque la foi est en même temps l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi et l'espérance. Quand il est question de foi et d'espérance, l'amour n'est pas loin. Et en rappelant ce qu'il en avait été dans les jours précédents pour ces Hébreux, il nous est dit, vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers. Voilà l'amour en pratique, comme au verset 24. Après versets 23 et 24, après avoir dit « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle, et la foi compte sur celui qui est fidèle, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour. » Alors, nous retrouverions cela encore dans l'épître de Jude, et en rapport avec ce que nous avons tout à la fin de ce paragraphe, quand il est dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. » Quelle expression remarquable. L'âme conservée. Conservée à travers tous les temps, toutes les circonstances, les afflictions et les tendres lâches. Et cela jusqu'au bout. La conservation absolue, éternelle, étant évidemment la conséquence de la venue de Christ. Mais l'âme conservée jusqu'alors, c'est en réalité la réalisation de Philippiens 2, n'est-ce pas ? Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Le salut journalier. L'âme se repose sur les déclarations divines pour dire qu'elle est sauvée par la foi, n'a rien à craindre du jugement à venir. Elle regarde vers l'avenir en disant « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut nous sera apporté lors de la venue du Seigneur. » Mais en chemin, jour après jour, il y a ce salut auquel nous avons à travailler. C'est l'âme conservée dans la fraîcheur de la foi première, comme dans la fraîcheur de l'espérance première, gardant sans chanceler ses pauvres, ces choses. Alors, dans l'épître de Jude, au verset 20, après avoir parlé ici encore de gens qui, après avoir fait profession de christianisme, se retirent, exactement comme dans notre passage des Hébreux, ces moqueurs marchant selon leurs propres convoitises d'impiété, versets 18 et 19. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Voilà bien ceux qui se retirent pour la perdition. Alors, mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu. La foi, l'amour de Dieu, versé dans le cœur, éprouvé et ayant ses résultats, ses manifestations dans la vie pratique, attendant, et voilà l'espérance, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Conservez-vous dans l'amour de Dieu. Ici, ceux qui croient pour la conservation de l'âme, la foi et l'espérance. Et alors nous arrivons à ce grand sujet de la vie de la foi, dont il est dit déjà, cela vient de nous être rappelé, la prophétie d'Habacuc, le juste vivra de foi. Nous rappelons ici une fois de plus que ce passage est cité à trois reprises dans le Nouveau Testament, la première fois, dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, au verset 17, « Car la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. » Il s'agit de la révélation de la justice de Dieu en justification du pécheur, donc l'accent est mis là sur le mot « juste », le « juste ». Vivra de foi. On est justifié par la foi. Et puis, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 11, en contraste avec la loi qui n'a jamais justifié personne, que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra de foi. Non pas par la loi, mais de foi, par la foi. Alors c'est la foi qui est le moyen divin pour assurer la justification de l'âme. Et l'accent est mis ici sur le mot foi, sans que les deux autres termes, foi et vivra, perdent leur importance. Et alors ici, dans les Hébreux, l'accent est mis, évidemment, sur « vivra ». Il s'agit de vivre de ce que l'on a cru, de ce que l'on croit, de vivre par la foi, vivre sur la terre. Quand l'espérance aura été comblée, et quand l'attente aura cessé, il ne sera plus besoin ni d'espérance, bien entendu, ni de foi. Et quand nous verrons le Seigneur, quand nous serons avec lui, la foi ne sera plus nécessaire. La foi cesse du moment que l'objet de la foi est saisi. Et nous ne l'avons pas saisi encore. C'est pourquoi il est parlé de la patience pour que vous receviez les choses promises. Patience, c'est dans la vie pratique, la vie courante, la vie des étrangers ici-bas, la foi toujours en activité, l'espérance toujours ranimée, et un pas après l'autre, un jour après l'autre, éprouvant que le Seigneur, invisible, est avec les siens, on va vers lui pour le voir, lui être fait semblable, recevoir enfin les choses promises. Mais en attendant, nous les avons, à titre d'art, par le Saint-Esprit. Et c'est là la vie chrétienne. Nous avons au verset 37, et je crois pour la première fois, peut-être fais-je erreur, mais en tout cas, ici, elle prend, le mot prend tout son relief, l'expression recevoir. Recevoir. Et c'est l'un des maîtres mots du chapitre qui suit. Recevoir, ayant reçu, recevant, n'ayant pas reçu. La foi reçoit quelque chose. Elle commence par recevoir quelque chose. Mais pour recevoir, il faut que quelque chose nous soit donné et nous soit offert. Avant la foi, il y a évidemment Dieu et il y a la volonté de Dieu, il y a le conseil de Dieu, il y a la grâce de Dieu et il y a la parole de Dieu. Dieu qui offre. Dieu qui donne. Et ensuite, c'est à celui qui entend la parole à la recevoir. Et la foi reçoit le témoignage de Dieu à cet égard. Elle reçoit la parole de Dieu. Disons d'une manière plus générale, la révélation que Dieu a donnée de lui-même. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il faut toujours revenir là. C'est Dieu qui a l'initiative, il donne sa parole. La responsabilité de chacun est de la recevoir. Dieu sait de quelle manière il aura parlé à une âme. Peut-être une fois, deux fois, on n'a pas pris garde. Mais... Et il faut d'autre part l'action divine elle-même, l'action du Saint-Esprit, c'est un autre côté des choses, mais qui laisse entière la responsabilité de celui qui est placé au contact d'un témoignage de Dieu. Alors la foi a reçu cela, elle a reçu la parole de Dieu, et elle le reçoit encore une fois parce que Dieu a donné. Et ensuite, alors... Il y a des promesses. La parole de Dieu comporte des promesses. La révélation de Dieu se révélant en grâce et en vérité. Il a parlé autrefois au Père par les prophètes. Il est venu dans la personne de son Fils et il a parlé ici-bas. Et il a révélé notre état. Cela a été rappelé et combien c'est important. Mais il est venu apporter des promesses. Promesses de salut. promesse de bénédiction éternelle, aussi bien que avertissement solennel quant au jugement de ceux qui seront morts dans leur péché et en méprisant la grâce de Dieu. Mais à la fois, il apporte des promesses. Et tant que ces promesses, encore une fois, ne deviennent pas une réalité, et tant qu'elles ne prennent pas leur existence effective, réelle, elles demeurent à l'état de promesses, des choses que l'on a devant soi, que l'on n'a pas encore reçues. Quand la promesse est accomplie, on ne parle plus d'attendre la promesse. Donc, les choses promises sont des choses qui n'ont pas encore été reçues. Cela a été le cas pour toutes les promesses faites autrefois. Ancien Testament, ancienne alliance, promesses terrestres faites au peuple terrestre, et même par-delà, pour un Abraham, pour tous ceux qui sont morts dans la foi, des promesses par-delà la mort, mais tout cela encore bien vague. Promesses qui sont faites maintenant aux chrétiens avec une certitude, avec la pleine assurance que donne le fait que Christ est venu, et lui l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, autant il y en a, autant en lui est le oui et l'amen, mais la mise en possession de l'héritage, de la possession déjà acquise, c'est encore futur, c'est à l'état de promesse, c'est notre espérance. Et dans ce sens, nous n'avons pas encore reçu les choses promises. Nous les recevrons, nous en avons, je le répète, les arts, et effectivement, si les choses promises ne sont pas encore effectivement reçues, il y a pour la foi, en attendant, ce que Dieu donne pour encourager, enrichir et déjà récompenser la foi ici-bas. Et c'est ce que nous retrouvons encore dans ce chapitre 11, c'est le témoignage rendu par Dieu à la foi, rendu pour le croyant au-dedans de lui-même, et donné à connaître au dehors dans la mesure où Dieu le permet et où le croyant est fidèle, mais le croyant reçoit témoignage. Dans le chapitre 11, on trouve ces trois côtés. La foi recevant le témoignage de Dieu. La foi recevant des promesses, mais ne recevant pas encore les choses promises. Mais la foi trouvant dans des témoignages rendus par Dieu à cette foi même un encouragement précieux. Et dans le premier paragraphe du chapitre 11, nous avons cela. Les anciens, au verset 2 par exemple, c'est par elle, par la foi, que les anciens ont reçu témoignage. C'est la parole de Dieu qu'ils ont reçue. Abel a reçu le témoignage d'être juste. Enoch a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Plus tard, on voit que Sarah a reçu la force de fonder une prospérité. On voit que des femmes ont reçu leur mort par la résurrection, etc. Mais les choses promises et les grandes choses, les biens meilleurs et permanents demeurent comme objet de foi pour le croyant tant qu'il est sur la terre.
On pourrait dire aussi que dans ces passages, et surtout dans le chapitre 11, la foi est également synonyme de confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Laquelle confiance en Dieu n'est évidemment qu'un des effets de la foi reçue, entretenue d'un âme par Dieu. On ne se confie pas en Dieu autrement que par la foi, bien entendu. Mais la foi est présentée quelquefois sous le jour de ce qui nous permet de saisir des objets que Dieu nous offre, des choses de Dieu. Mais là, ce qui brille dans ces personnages qui nous sont indiqués là, c'est leur confiance en Dieu, alors qu'il était très difficile, les conditions étaient très difficiles, et propres à empêcher toute réalisation de cette confiance en Dieu. Nous pouvons aussi nous souvenir que la foi, l'espérance et l'amour nous parlent aussi de l'anticipation que le Saint-Esprit nous peut nous faire goûter des choses à venir du ciel, des bénédictions qui seront les nôtres et qui sont les nôtres dans les lieux célestes. De même qu'autrefois, la grappe d'Escol était donnée comme témoignage de la valeur du pays, de la richesse du pays dans lequel le peuple allait entrer. De la même manière, le Saint-Esprit peut remplir notre cœur des joies célestes, de ce que nous connaîtrons quand nous serons entrés là. Nous, ce qui manque pour le moment, c'est la gloire, mais l'essentiel, nous pouvons l'avoir. Le Saint-Esprit nous fait goûter par avance. Ce sont les avant-goûts de nos bénédictions éternelles. Il nous les fait goûter. Et c'est ce qui permet aux pèlerins là, et aux pèlerins et aux témoins, car les deux y sont, un pèlerin, mais aussi un témoin, et nous sommes toujours les deux, nous ne sommes pas une fois témoins et une fois pèlerins, nous sommes ici, nous ayant à réaliser les deux, toujours. Eh bien, le Saint-Esprit nous permet de goûter par avance aux choses éternelles, et rien ne répond mieux à la vie nouvelle que nous avons, qu'un chrétien a, la nouvelle nature. Le Seigneur nous met en rapport avec le ciel par avance, et sans que cela se voie. Et cela nous permet de, dans cette mesure où nous le goûtons, cela nous permet de faire notre chemin ressemblant un peu à celui des exemples qui nous sont donnés là.
C'est pour cela que le Saint-Esprit, dans le passage bien connu du premier chapitre des Éphésiens, est appelé l'Esprit de la promesse. Le Saint-Esprit, vous avez été scellé, et du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, nous mettant à l'avance en possession de quelque chose de l'héritage, et nous en donnons la pleine assurance.
Quand le Saint-Esprit remplit notre cœur, c'est Dieu qui remplit notre cœur, et c'est ce qui est de Dieu dans le lieu des célestes qui remplit notre cœur. Et tout cela échappe à toute analyse, ce sont des faits d'expérience, et qui marquent la vie d'un chrétien, bien entendu. Pour un Paul, c'était un état probablement réalisé d'une façon très continue. Et peut-être pour d'autres depuis, Dieu le sait, et nous le souhaitons. Cela nous est offert, en tout cas, à tous.
En Éphésiens 1, quand il est parlé du Saint-Esprit de la promesse, il n'est donc pas question du Saint-Esprit promis, mais il n'est pas question de la promesse du Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit en rapport avec la promesse qui nous est faite du retour du Seigneur. Et il est les arts de notre espérance. Il est parlé de la promesse de l'Esprit promis. Mais dans Éphésiens 1, c'est le Saint-Esprit de la promesse en rapport avec la promesse du retour du Seigneur. Concernant les
dernière ligne du chapitre 10e, si nous avons bien compris ce qui a été dit, en rapport avec la conservation de l'âme, il serait alors inexact de voir dans cette expression la conservation de l'âme, de voir une allusion à la conservation de l'âme par-delà la mort. Nous voulons dire l'immortalité de l'âme. C'est plutôt cette conservation de l'âme pendant que nous sommes sur la terre, jusqu'au bout de notre pèlerinage. À cet égard, nous avons cette exhortation, conservez-vous dans l'amour de Dieu qui a été rappelé. Nous avons notre responsabilité excitée à cet égard. Puis alors, d'autre part, pour cela, pour la conservation de notre âme, nous avons les secours de Dieu, nous avons les secours de notre grand souverain sacrificateur, quand il est dit « de là vient aussi » qu'il peut sauver entièrement, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons donc d'une part cette responsabilité, conservez-vous dans l'amour de Dieu. Dieu s'adresse à chacun de nous, nous n'avons pas à oublier l'amour de Dieu, nous avons à y penser, nous avons à nous y conserver. Mais pour cela, nous avons besoin, comme en toute chose, des secours divins. Et nous avons là notre grand souverain sacrificateur qui peut nous sauver entièrement jusqu'à l'achèvement, qui vient nous aider quant à ce salut pratique, ce salut journalier dont il a été parlé.
Il est clair que l'action en cours, si je puis parler ainsi, ne se sépare pas de son aboutissement et de sa conclusion, et que la conservation de l'âme, elle se poursuit à travers toute la course du croyant ici-bas jusqu'à l'achèvement de cette course, et alors l'âme se trouve conservée, en perfection, en plénitude, dans l'éternité. De même que le salut journalier aboutit au salut définitif. Je répète, ce qui est en cours conduit à l'achèvement. Mais c'est ce que nous trouvons, je crois, très explicitement donné dans le verset que vous avez cité du chapitre 7, n'est-ce pas, où le Seigneur est présenté alors comme sauvant jusqu'à l'achèvement, sauvant entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce entièrement traduit, que l'on peut traduire aussi, je le répète, par jusqu'à l'achèvement. Cet achèvement, c'est bien quand nous serons avec le Seigneur dans la gloire et semblables à lui. Et jusque-là, il s'occupe de notre salut journalier, de nous-mêmes ici-bas, jusqu'à ce plein achèvement. C'est bien cela, n'est-ce pas?
Oui, c'est ce passage considère la vie d'un croyant comme un tout.
Comme un tout, depuis
le départ et jusqu'à la gloire. Et par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu, quelles que soient les vicissitudes, l'âme reste pour Dieu. Et il y a aussi là une opposition avec ce qui est dit juste avant. Ceux qui se retirent, voilà. Voilà les deux chemins.
Voilà.
L'un qui a l'air d'avoir bien commencé, et l'âme se retire, et la fin de la course est la perdition. Deuxième cas, l'âme est là, l'âme a été amenée à la connaissance du Seigneur, le Seigneur la garde pendant toute sa carrière ici-bas. La fin, c'est la gloire. Ce sont deux carrières diamétralement opposées.
Le chemin ne se sépare pas de son aboutissement.
Non, c'est ça. Pour Dieu, d'ailleurs, il voit la fin en même temps que le commencement d'une chose.
Est-ce que c'est la même pensée dans la première aux Thessaloniciens ? Votre esprit, votre âme, votre corps tout entier soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle, et fidèle qui aussi le fera.